Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue sur un match, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales retour de l'UEFA Champions League avec Paris SG Dortmund, demain à 21h sur Canal Plus Foot, et Real Madrid Bayern, mercredi à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Vous écoutez
RMC.
RMC Sport Show.
Sport Show, François Pinet.
Il est 16h02 sur RMC, ravi de vous retrouver, salut à tous. Le RMC Sport Show, c'est pendant 2 heures avec notre consultant Richard Dourde. Salut Richard.
Salut François, bonjour à tous et à tous.
Tout va bien ?
Oui, tout va très bien.
Bon, on va parler pas mal de rugby hein, avec toi, ça tombe bien. Avec notre Tour de France des clubs du top 14 qui s'arrête dans 2 clubs aujourd'hui puisqu'on sera à Bordeaux-Bègles. L'UBB, auteur d'une très belle saison, demi-finaliste du top 14 et de la Coupe d'Europe, qui va tenter sans doute de grandir encore. On sera avec Jefferson Poirot, l'ancien international à 17h15, pilier du club, qui nous parlera de tout ça. Et puis juste avant, le directeur général du Stade français, Thomas Lombard, sera notre invité. Barrage surprise l'an dernier, les Parisiens peuvent-ils encore s'installer en haut du classement ? On vous attend, supporters de l'UBB et du Stade français au 32-16. Vous pouvez poser directement vos questions à nos invités. Dans la deuxième heure du RMC Sport Show également, on sera avec Eric Salio pour revenir sur le parcours de Benoît Paire à Cincinnati. Il a encore gagné. Quelques jours du début de l'US Open, Paire vient de battre Chapovalov, 10e mondial. Et peut-être que Benoît Paire peut viser quelque chose à l'US Open où il y a encore quelques forfaits. On vous en parlera bien sûr. Et puis, notre rendez-vous paralympique à une semaine maintenant des Jeux paralympiques de Tokyo. On sera avec Eddy Potvin, qui est un athlète qui va participer à l'épreuve de paracanoë et qui sera en direct avec nous à 17h45 pour nous raconter justement ce qu'il espère de ces Jeux de Tokyo. Et puis dans 15 minutes, supporter Rennais, on vous attend au 32-16, le Stade Rennais qui est le club français qui va inaugurer la Conférence League demain contre Rosenborg. Si vous n'avez rien compris à cette compétition, Xavier Grimaud sera là pour nous expliquer tout. Il assiste en ce moment à la conférence de presse. Et puis dans 40 minutes, Paul Pogba peut-il quitter Manchester United dès cet été ? Le milieu de terrain français qui est en fin de contrat dans un an, auteur d'une très très belle performance le week-end dernier, Pogba qui attise les convoitises. Est-ce que le PSG doit tout faire pour faire venir Pogba dès cet été? Vous venez nous dire ce que vous en pensez au 32-16. On sera avec Julien Laurence. Et puis, comme hier, dans le RMC Sport Show, on vous offre vos places pour la 89e édition des 24 heures du Mans. Les 24 heures du Mans, c'est une course mythique, événement incontournable bien sûr. C'est ce week-end, ça se passe samedi et dimanche prochain, 21 et 22 août. Vous appelez dès maintenant pour gagner vos places le 32-16 et on vous offrira 2 places et on donnera bien sûr le nom des vainqueurs au cours de ce RMC Sport Show. Le 32-16 ouvert pendant 2 heures donc, le hashtag RMC Live sur Twitter, l'appli RMC Direct Studio pour laisser vos messages ou même poser vos questions à Richard Dourde. Il vous écoute et j'essaierai de lui relayer vos messages. Allez, c'est parti pour le RMC Sport Show.
La une du RMC Sport Show.
Et à la une du RMC Sport Show, l'Olympique Lyonnais. On en parlait un petit peu hier avec cette mise à l'écart de Marcelo, le défenseur brésilien, pour comportement inapproprié. On a plus de détails sur ce qui s'est passé. On vous raconte tout ça avec Edouard Jay qui est avec nous. Salut Edouard.
Salut François. Bonjour Richard. Bonjour à tous.
Salut Edouard.
Alors, salut. D'abord, puisque Richard n'était pas là hier, mais bon, on en a un petit peu parlé avec Olivier Giraud. Est-ce qu'on sait exactement aujourd'hui ce que Lyon reproche à Marcelo ?
Alors en fait, je vous ai tout raconté hier soir à 19h quand j'ai réussi, à 18h quand j'ai réussi un petit peu à rassembler quelques pièces du puzzle. Alors c'est à la fin de ce fameux match de dimanche qui va devenir fameux pour les supporters, non pas pour le résultat, mais peut-être pour les conséquences qu'il va y avoir après. Je vous en dirai plus après vous avoir donc reparlé de ce scénario à la fin du match. Donc défaite 3-0 des Lyonnais et puis Marcelo qui va donner son maillot à quelques fans, son maillot à un fan dans le parcage et puis qui commence déjà à dire mais qu'est-ce qui c'est quoi le problème, alors que les supporters bien évidemment après un 3-0 ils ont fait le déplacement à Angers, c'est loin, ben ils étaient un petit peu courroucés, on peut l'imaginer. Voilà, donc il y avait déjà ce petit sourire là qu'il avait sur le terrain, et quand il rentre dans le vestiaire la porte se ferme et Léo Dubois prend la parole en tant que capitaine pour remobiliser tout le monde en disant mais qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui. Voilà, on peut imaginer le discours d'un capitaine après une telle déroute. route. Et sur son banc dans le vestiaire, eh bien, sur le visage de Marcelo est arrivé un petit rictus, un petit sourire narquois qui n'a pas plu à un certain nombre de personnes. Alors moi, j'en reste là. Au niveau des informations, si je lis le Progrès, et comme on dit, entre Rhône et Saône, quand c'est dans le Progrès, c'est que c'est vrai. Il y aurait eu des échanges physiques, par exemple, avec Maxwell Cornet, parce que tout cela aurait un petit peu,
dégénéré.
Mais moi, j'en reste au moins, je n'ai pas la confirmation de tout ça, mais en tout cas, ça a rendu fou le coach qui a immédiatement, et ça, ce sont les confrères de l'équipe qui l'avaient raconté dès lundi matin, et le Progrès également, que Juninho, le directeur sportif, son coach, et puis Vincent Ponson, le directeur du football, s'étaient déjà réunis sitôt le match en disant il faut qu'on prenne des décisions, et la décision, elle a été signifiée à Marcelo le lendemain. Donc, on était lundi, puisqu'il a été reçu pour dire voilà, ben t'es rétrogradé dans en réserve. Alors on est dans un cas juridique un peu complexe, hein. Ce sont des CDD, donc il y a pas forcément de licenciement. Est-ce qu'il faut prouver une faute grave? C'est un petit peu difficile. Donc pour l'instant, pour les 15 jours qui restent avant la fin de mercato, en gros, il est avec la réserve dirigée par Gaïda Fofana et Jérémy Bréchet, et en attendant, ben il est censé essayer de trouver un point de chute pour la suite de son aventure footballistique à 34 ans, s'il veut ça, Marcelo. Alors lui, pour être complet, hier soir sur Instagram publié un communiqué. Alors lui qui se targue d'être à Lyon depuis 4 ans et quelques, il l'a fait en anglais. Bon, il aurait pu le faire en français, même si c'est toujours quelque chose qui me gêne un petit peu quand on veut éventuellement parler. On est de France, on parle en français, surtout quand ça fait 4 ans qu'on est là. Donc il expliquait que ce qui est dit par l'OL et certains médias est faux. Malheureusement aujourd'hui, je vois sur Internet que le club annonce au monde que je pars pour une autre raison. C'est pas vrai, je vous expliquerai bientôt. Je clarifierai tout cela en toute transparence. Donc on attend la suite de la part de Marcelo. Voilà le cas.
Il peut être licencié. Ça peut aller jusqu'au licenciement.
En fait, la fin de son contrat, il peut être licencié. C'est-à-dire qu'il lui paye ce qu'il lui reste à lui payer. Mais
ouais, alors c'est grave, ça, c'est...
Oui,
c'est difficile, parce que là, on est dans un CDD.
Prouver,
Alors, en sachant que Marcelo a été, rétrogradé sportivement par Peter Bosz, déjà, qui lui avait dit, t'es quatrième ou cinquième choix dans la hiérarchie. Le problème pour Peter Bosz, l'entraîneur, c'est que Jason Denayer, touché par le Covid, n'était pas là. Damien Da Silva, la recrue, était suspendu pour les deux premiers matchs. Donc, il fallait faire avec Marcelo. Et puis, sportivement,
il y a déjà un précédent ou un antécédent avec Marcelo à l'OL. Hein. Il me semble-t-il, il y a 2 ans, il avait été pris à partie par les supporters, défendu par les joueurs.
Exactement.
Finalement, il avait fait une bonne fin de saison, mais là, c'est en fait, ça sent mauvais, ça sent mauvais pour lui, parce que les Lyonnais, ça marche pas très bien. Ils ont pris une belle rouste à Angers ce week-end, et apparemment, c'est juste un
sourire, comme nous le dit Edouard. Alors peut-être qu'après,
quand on prend 3-0, on ne sourit pas trop dans les vestiaires.
Oui, je suis d'accord, mais de là à le pousser dehors juste pour ça, c'est que forcément, ils avaient envie de le voir partir.
Il y a autre chose.
Non ?
Oui, parce que vous imaginez, Richard, je pense que dans le rugby, ça se passe pareil, hein, dans des collectifs. À la fin d'un match où tu as pris quelques essais et une raclée.
3-0 au foot, c'est l'équivalent de 30 points d'écart au rugby. Donc quand on prend 30 points d'écart, on regarde ses crampons et on range ses affaires, quoi.
Ouais, pas trop.
Surtout qu'on a pris des brins toute l'après-midi.
Exactement. Donc après, il y a son comportement, parce que c'est vrai qu'il est, dégradé assez rapidement, parce que je parle sur le long terme, parce que n'oublions pas qu'en mars dernier, et mars, c'est quand même il y a 5 mois, hein, il a prolongé son contrat.
Mais oui, c'est ça qui est fou.
Donc, c'est assez incroyable, mais c'est vrai qu'il y a un changement de
montée,
certains persifs.
Non, il a prolongé parce qu'il le méritait quelque part sur la fin de saison qu'il avait fait. Il avait un regain de forme quand même, Marcelo.
Et puis il était un petit peu là dans les petits papiers de Rudy Garcia à ce moment-là. C'est lui qui a poussé pour qu'il soit prolongé. Alors après, on dit qu'il a beaucoup depuis travaillé son putt et tout son handicap de golf. Et d'ailleurs aujourd'hui sur ses stories, on voit qu'il est en train de faire du golf. Donc voilà. Donc il y a beaucoup de petites choses. Il n'y a pas que l'aspect du, bien évidemment. On ne va pas retenir uniquement un sourire après une défaite. On ne licencie pas de quelqu'un.
D'un petit moment.
Mais c'est un petit peu pour l'ensemble de son œuvre. Et puis, je serais tenté aussi de vous dire que ce que je l'ai déjà dit hier soir, c'est un premier de cordée parce qu'il va y en avoir d'autres.
Alors on va en parler. Ouais. Juste, je reviens voilà. juste donc, sur la prolongation en mars dernier, justement, jusqu'en 2023 pour Marcelo. Et j'ai revu à ce moment-là les déclarations de Jean-Michel Aulas, de Juninho, qui étaient autour de Marcelo pour donc annoncer cette prolongation. Et c'est fou comme ça change très vite parce que Aulas disait c'est un garçon qui a des valeurs, c'est un exemple. Juninho disait c'est un joueur qui travaille énormément, qui est un des leaders de notre club. On est content de sa prolongation. Bref.
Mais François, voilà. on peut pas dire autre chose quand on prolonge un joueur. Si on prolonge un joueur, c'est que on a confiance
en lui.
C'est
une erreur, donc, du coup, de l'avoir prolongé. Tu dois le savoir.
Peut-être pas. Mais par contre, on n'entend pas le président Jean-Michel Aulas sur ce cas-là pour l'instant. Me semble-t-il qu'il a pas
non,
lui qui
vrai.
Aime. Parce que c'est le grand chef quand même, hein, c'est le big boss, donc il aime parler de son club, il aime son club, il a fait du bon boulot à l'OL, et on n'a pas entendu dans les médias parler de ce cas-là, donc peut-être qu'il y en a d'autres, parce que me semble-t-il que dans le vestiaire, c'est pas non plus quand il y a un mauvais résultat, parce que c'est vraiment un mauvais résultat quand même de Lyon 3-0 à Angers, quand il y a un mauvais résultat, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui couve. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Edouard.
Exactement. Je veux juste finir. Je parlerai de ça. Je répondrai. Je prolongerai ta question, Richard, sur le contexte de mars dernier. C'est vrai que sportivement, moi, ce qu'on me dit, c'est sportivement à l'entraînement, c'est quelqu'un qui était là, qui donnait tout, qui essayait de pousser un petit peu les autres. Il y avait pas forcément grand chose à lui dire une fois que la séance d'entraînement débutait. C'est plus un petit peu les à côté. Alors je sais que humainement parlant, c'était pas forcément. C'est pas forcément quelqu'un qui attirait les sympathies, par exemple avec son propriétaire, parce qu'il a changé de logement il y a peu, bah, il est en procès parce que il est parti en cassant beaucoup de choses dans la maison. Ah voilà, oui. Donc il y a un petit savoir vivre.
Des champions, des champions de l'entraînement, moi j'en ai vu plein. Hein. Après, ce qui compte, oui. c'est le match. Hein.
Ouais,
sur le terrain. Il y a des joueurs qui sont pas à fond à l'entraînement, mais qui en match sont imbattables, quoi. Et à l'inverse, d'autres qui sont champions du monde d'entraînement, qui font mal à tout le monde, et en match, ils font mal à personne. Donc voilà, c'est l'entraînement, ça veut dire beaucoup de choses, mais après, il y a à apprendre et à laisser. Il faut bien analyser tout ça, et ça, c'est le rôle du coach. Mais je crois qu'il y a quelque chose d'autre qui couvre là-dessous. Je crois qu'il n'y a pas forcément l'osmose dans tout le groupe, et tu vas peut-être confirmer. Mais
justement, Edouard, tu nous le disais, ça va peut-être pas concerner que Marcelo. La porte est ouverte pour d'autres joueurs de Lyon.
Ouais, parce que en fait, on en vient au cas Marcelo et à tous les autres, parce qu'il y a une convergence de vues et une démonstration en 3D. Alors je m'explique. La convergence de vues, c'est entre Juninho et le coach. Juninho, le directeur sportif, avait déjà noté des comportements, des absences des uns des autres depuis qu'il est là et sur les derniers mois de l'année dernière. On sait comment ça s'est terminé avec ce match face à Nice qui a privé les Lyonnais d'une possibilité d'aller en Ligue des Champions à la place de Monaco par le tour de préliminaire. Et Juninho a attendu que son coach, nommé fin mai, ait le même sentiment, fasse les constats. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? Ben, les deux hommes se sont rejoints sur un certain nombre d'attitudes des uns et des autres. Et puis la démonstration en 3D, sans jeu de mots, c'est les 3-0 à Angers. Il a démontré que la recette, elle est bonne sur le papier, hein, le jeu que veut faire Peter Bosz. Mais il manque les bons ingrédients. Donc il y a eu ce match, mais il y a eu le match de Brest avant. Et il y a une unité, je peux vous dire, entre la direction technique et sportive, ça c'est un ingrédient de taille pour l'avenir, entre le directeur sportif, donc Juninho, le coach. Il y a aussi l'état de grâce autour du coach, parce que tous les supporters louent ses volontés, ce qu'il veut mettre en place. Et comme on dit, hein, quand il y a une montée, il y a un chemin. Il y a une mise au point orale de Peter Bosz à la mi-temps du match, il y en a une à la fin. Mardi, dans le vestiaire, Juninho a vraiment mis les points sur les i. Mettez vos états d'âme de côté, les intérêts personnels également. Et puis hier, sur OLTL, Rémi Vercoutre a expliqué aussi qu'il fallait, lui qui revient au club en tant qu'entraîneur des gardiens d'Anthony Lopez, voilà, qui veut remettre aussi un petit peu des ingrédients de la gagne. Et moi, on me disait dès ce week-end, si tu trouves un stage possible à Humilité, Alors je dis, mais c'est quoi Humilité? Ouais, c'est une petite ville, si tu peux la trouver sur la carte, là où on pourrait un petit peu dégonfler les têtes, inculquer les valeurs du collectif, ouais. J'y enverrai quelques énergumènes.
Ouais, voilà, Edouard, entre la volonté d'un entraîneur de faire du jeu qui est plaisant et la capacité des joueurs de le faire, est-ce qu'il n'y a pas une marche qui est un petit peu trop importante? C'est ça qu'il faut voir, quoi. On a des exemples dans le rugby. J'en connais un, je vais vous le nommer. C'est Xavier Garbajosa à Montpellier qui voulait faire jouer son équipe d'une certaine manière. Les joueurs n'ont pas adhéré et ça a fait flop, quoi.
Ah oui.
Et est-ce que c'est pas ça le problème, en plus du problème de comportemental des joueurs? Voilà. Est-ce que le jeu prôné par Peter Bosz s'adapte à la qualité de l'effectif de Lyon?
T'as posé la bonne question, et surtout si en plus déjà tu ne mets pas l'envie, l'énergie, tout ce qu'ils demandent.
Parce que les joueurs ils ont pas envie de jouer comme ça, donc du coup ils font pas les efforts, donc du coup ils défendent pas, donc du coup ça fait 3-0 à Angers, quoi.
Voilà, donc du coup, qui de la poule et de l'œuf, hein, qui commence, quoi, en fait, sur ce coup-là. Alors après, moi, techniquement, les joueurs qui sont au milieu de terrain, franchement, Cacré, Guimarães, Paqueta, Aouar, Thiago Mendes,
il y a de la qualité.
Quand même de la qualité, hein. Donc, à part le PSG, je vois pas beaucoup. Sur le papier, des joueurs moins meilleurs. En tout cas, ils ont montré un certain nombre de choses, notamment il y a un an, parce que Lyon, il y a un an, était en demi-finale de Ligue des Champions avec Guimarães, Cacré et Aouar au milieu. Hein, et ça avait fait quand même des gros matchs. Donc, il y a déjà une question d'attitude. Alors, est-ce que tout ça va changer dès dimanche face à Clermont? C'est tout le souhait, bien évidemment, du staff. Mais il va vraiment falloir que ça change.
Est-ce que Lyon a les moyens finalement? Financier.
Là est la question. Alors il y a déjà eu des quelques ventes qui ont rapporté.
Le problème, c'est que les joueurs qui ont une valeur marchande sur le marché, c'est forcément les meilleurs de l'OL, quoi.
Voilà, et puis quand on a 15 jours de la fin du mercato, si on sait que l'OL ou tel club a besoin de tel joueur, forcément le club vendeur va mettre un prix un peu élevé. Donc il circule énormément de rumeurs dans tous les sens, donc je m'aventurerai pas sur les noms. Est-ce qu'il y a option d'achat, est-ce que l'OL peut payer ou pas, parce que c'est vraiment un peu à l'instant T, je n'ai pas tous les ingrédients, mais c'est vrai que clairement on peut imaginer qu'un Maxwell Cornet du côté de Lyon veut absolument le faire partir. Thiago Mendes également. Pourquoi pas Oussem Aouar, même si le prix sera peut-être un peu bradé, parce qu'on imaginait avant la Covid que c'était
Oussem Aouar, un transfert. C'est quand même un très bon joueur, quoi.
C'est un très bon joueur, mais quand je parle de comportement, quand je parle de peut-être de suffisance, pense d'attitude, un qui est pareil. Pareil aussi, il faut faire passer des messages à Ryan Cherki. Voilà, donc il y a un gros travail.
Et ces joueurs, travail, quoi, à Lyon.
Voilà, ils sont vraiment dans le collimateur du staff, tous ces joueurs que j'ai
cités. Peut-être effectivement des recrues, peut-être que ça va bouger en cette fin de mercato. En tout cas, il y aura sans doute des départs et des arrivées. Pierrick a fait le 32-16. Salut Pierrick.
Salut tout le monde.
Supporter de Lyon. Alors évidemment, c'est vrai que quand on a le tableau dressé par Edouard Jay, quand on est supporter de Lyon, je pense qu'on s'inquiète un peu. C'est ton cas ?
Bah oui. Ouais, forcément. Enfin, je veux dire, si on supporte un club et qu'on voit on voit le tableau qui est dressé, on peut que s'inquiéter, parce que c'est le bordel. Il y a rien d'autre à dire. Et là pour le coup, les joueurs certains joueurs, ils n'ont plus d'excuses. Au début c'était Jean-Michel Aulas, finalement il a mis Juninho. Ensuite c'était l'entraîneur. Donc on a viré Genesio, on a eu Silvinho, ça a pas marché, on a mis Rudy Garcia, ça a plus ou moins marché. Maintenant il y a plus Rudy Garcia, il y en a un autre. Et en fait le seul facteur qui reste, c'est les joueurs. Et les joueurs, quand on voit Aouar qui marche sur le terrain, qui regarde pas sa défense, alors que la balle repart justement de leur camp, etc., des trucs comme ça, on peut pas dire que c'est pas leur faute. Ils sont pas impliqués. S'ils ont pas envie, faut qu'ils partent. Il y a un moment, pour X ou X raisons, que ce soit un melon disproportionné ou juste des envies d'ailleurs, c'est tout. C'est pas en restant à Lyon que ça va changer quoi que ce soit. Et s'il faut qu'ils partent, faut les faire partir. Je pense qu'il y a trop rien d'autre à faire.
Quitte à faire une saison où peut-être que tu ne joues pas les premiers rôles.
Non, après c'est tout, tant pis. C'est, c'est si derrière on peut avoir des saisons correctes avec des joueurs qui sont investis, bah c'est tout. Ça remettra aussi les pendules à l'heure pour ceux qui restent. Ça leur évitera peut-être de choper le melon que certains ont chopé. On pense toujours qu'on est le plus fort jusqu'à ce qu'on se fasse battre par quelqu'un d'autre. Bah voilà, ça va être ça, c'est tout. On est dans une phase de reconstruction, comme on peut dire. Et bah faut reconstruire, c'est tout. Alors est-ce qu'il faut tout raser? Peut-être pas. Il y a quand même des joueurs qui, je pense, sont capables de rester et d'apporter quelque chose. Mais certains, bah ouais, je pense, Aouar, il a plus envie d'être là, donc bah c'est tout. Faut le laisser partir. Cherki, s'il comprend pas qu'il faut qu'il prouve avant d'être dans un top club, bah balançons-le dans un top club et il se mangera. Il marche trop.
Ouais, mais le problème, c'est que l'OL c'est considéré comme un top club quand même. Donc
ouais, c'est quand on peut-être perd 3-0 contre Angers,
voilà, c'est peut-être un comportement qu'il faut revoir et peut-être que ces jeunes-là, il faut qu'ils se mettent dans la tête qu'il n'y a pas forcément beaucoup mieux ailleurs, quoi. On sait ce qu'on a, mais on sait pas ce qu'on perd quand on part. Donc, il faut peut-être remettre en place tout ça. Mais c'est compliqué de tout changer parce qu'on peut pas changer 20 joueurs. C'est ça qui est compliqué à l'OL, non?
Non, c'est sûr. De toute façon, il n'y a pas à changer tout l'effectif. Je pense que, en plus, les têtes sont à peu près ciblées. Vous en avez parlé. Voilà. Il y a Slimani, je comprends moins parce que bon, mine de rien, même quand il jouait ailier gauche, il se dépense. Il a pas été excellent, mais il s'est dépensé. Cornet, il veut partir. Il a jamais été trop, il s'est jamais trop imposé dans l'équipe en plus. Donc, je pense qu'il est temps qu'il aille voir un peu ailleurs. Surtout que là, enfin, le deuxième carton jaune, il est d'une bêtise absolue. Quand on tacle un joueur comme ça, quand on a déjà un carton jaune, alors qu'on a la vitesse pour le reprendre et qu'on le tacle dans la moitié de terrain.
Ah oui, mais on sent que c'est un geste aussi de frustration aussi, hein.
Bah, oui, mais après, la frustration, elle a une raison. Donc, s'il est frustré à Lyon, bah, faut qu'il parte.
Ok, c'est... donc, le grand ménage pour toi, Pierrick, on l'a bien compris. Edouard, donc, les supporters l'attendent, ce grand ménage. Il reste pas beaucoup de temps, honnêtement, jusqu'au 31 août.
Ouais, voilà. Deux possibilités aussi.
Ce qu'il faut vendre pour recruter, si on l'a bien compris, hein, au niveau financier. Peter Bosz, évidemment, tu nous l'as dit, ça c'est le point positif, c'est qu'avec Juninho, ça va. Mais en revanche, bon, il y a quelques choix peut-être qui sont quand même étonnant sur le marché des transferts, vendre Jean-Lucas à Monaco, un concurrent direct, vendre Melvin Barr qui a fait un très bon match avec Nice. Voilà, il y a quelques choix quand même un peu étonnants.
Alors, Melvin Barr, il y a par exemple, c'est vrai que Peter Bosz ne voit pas dans ce joueur un gros potentiel dans son jeu. Voilà, donc là, D'accord. C'est vraiment un jeu de technique de Melvin Barr, comme pour Sinali Diomandé qui est sur les tablettes de 3 au final. Voilà, il y a aussi le regard du nouveau coach. Ouais. Alors après, quand je vous dis grand ménage, ils vont pas virer 20 joueurs, hein, bien évidemment, mais il y a un certain nombre de joueurs. Et le cas de Marcelo est très très symptomatique des valeurs que l'OL, que le staff, que les dirigeants sportifs veulent vraiment voir. Et Richard, tu parlais de Jean-Michel Aulas qui est entre guillemets attend parce qu'il a tout laissé le travail à son staff, en l'occurrence Vincent Ponceau, le directeur du football, Juninho et son coach, pour qu'ils eux travaillent vraiment. Et là, avec cette question, est-ce que le statu quo actuel, c'est plus risqué qu'un petit chamboule-tout au niveau des cadres? C'est la bonne question, mais je crois que c'est parti pour une reprise.
Le problème dans un groupe, c'est que tu parlais de Marcelo, à qui Peter Bosz a dit qu'il allait plus jouer, et un joueur qui ne joue pas, c'est un petit peu la gangrène d'un groupe, quoi. C'est-à-dire que il joue pas, donc l'entraîneur est un con, donc il a toujours des amis dans le groupe, donc les amis forcément il les perturbe, et il faudra faire attention, il faudrait pas que ça parte en cacahuète à l'OL, quoi.
Alors on verra ça, bien sûr, on aura l'occasion d'en reparler de l'Olympique Lyonnais. Merci beaucoup Pierrick, en tout cas, d'être venu sur RMC. Tu reviens quand tu veux et on suit de très près, bien sûr, le mercato de ton club sur RMC. Merci Edouard. À bientôt.
Toujours plaisir. À la prochaine.
Un grand plaisir. À bientôt sur RMC. Dans un instant, on va parler du Stade Rennais puisque la conférence de presse avant la Conference League est en train de se terminer. Xavier Grimaud y a assisté pour RMC. Il sera avec nous dans un instant pour nous raconter tout ça. Le Stade Rennais qui affronte Rosenborg dans cette nouvelle compétition. On en parle avec vous, supporters bretons, au 32-16. À tout de suite.
RMC Sport Show, François
Pinet. 16h30 sur RMC, le RMC Sport Show qui continue avec Richard Dourde. C'est jusqu'à 18h. Dans 15 minutes, cette question autour de Paul Pogba. Le PSG doit-il tout faire pour faire venir Pogba dès cet été? Et oui, on en demande encore au Paris Saint-Germain. Pogba qui est en fin de contrat dans un an, on en parle avec Julien Laurence dans quelques minutes et on vous attend au 32-16. Mais d'abord, puisqu'on parle de foot, on va parler de cette Coupe d'Europe de football avec d'abord un rappel. Hein, hier, Monaco a perdu contre le Shakhtar Donetsk 1-0. C'était le barrage aller de Ligue des Champions. Place demain à la Conference League, donc la nouvelle compétition européenne sortie du chapeau de l'UEFA. C'est le Stade Rennais qui va inaugurer ça pour la France, hein, qui représentera la France dans cette compétition avec un barrage demain, 19h contre Rosenborg, à suivre bien sûr sur RMC avec Xavier Grimaud qui sera au commentaire. Il est là, Xavier. Salut Xavier.
Salut François, bonjour à tous, salut Richard.
Tu as assisté à la conférence de presse, elle s'est terminée il y a quelques minutes, c'est ça? Qu'est-ce qu'on en dit de cette conférence de presse? Ils sont motivés là à l'approche de cette nouvelle compétition?
Oui, bien sûr, conférence de presse avec Bruno Genesio et Benjamin Bourigeaud. Oui, les Rennais sont motivés. Alors c'est vrai que ça n'a pas forcément encore l'odeur de la Coupe d'Europe. Il n'y a pas notamment le packaging en conférence de presse. Va falloir d'abord passer par ce barrage. Mais Bruno Genesio a annoncé les ambitions, que effectivement ça sentait pas encore l'Europe, mais que se qualifier pour cette Conference League, il ne pouvait pas penser à une autre éventualité. C'était un objectif majeur du club, ce qui serait leur quatrième campagne européenne de suite, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire du Stade Rennais. Un objectif majeur qui n'avait pas de pression négative, même si évidemment c'était à Kitchloub, il n'y avait pas de rattrapage. C'était surtout important pour mobiliser tout un groupe, pour que les joueurs jouent tous les trois jours et que le groupe avait été construit pour ça. Donc voilà, non, c'est un vrai objectif de jouer, de battre Rosenborg sur cet aller-retour, en se méfiant quand même de Rosenborg. Alors, François, ça parle un peu Rosenborg pour la Ligue des Champions des années 2000.
Ouais,
exactement, la Ligue des Champions des années 2000, on les voyait sur TF1, pour pas citer la chaîne, en gratuit contre Lyon, contre Paris. Mais bon, Rosenborg, c'est plus la Ligue des Champions depuis 2008, mais ça reste une équipe qui joue l'Europa League, les poules, tous les ans. Donc, niveau expérience européenne, Genesio l'a bien dit, Rosenborg a plus d'expérience européenne finalement que Rennes. Donc, va falloir faire attention avec une équipe qui a des qualités au milieu, notamment avec deux joueurs très techniques au milieu, nous a-t-il dit, et deux milieux, deux ailiers qui jouent sur leurs faux pieds, dont il faudra se méfier. Benjamin Bourigeaud, lui, a dit, évidemment, c'est lui qui a le plus d'expérience finalement dans ce groupe. Il est là depuis les 4 ans, il a fait les 4 campagnes européennes qu'il devait se servir, notamment de la Ligue des Champions l'année dernière, pour progresser et donner les conseils aux jeunes qui eux vont découvrir cette Coupe d'Europe, parce que la Coupe d'Europe, il faudra en mettre beaucoup plus d'intensité, plus d'engagement, plus de concentration pour passer. Donc prudence hein, quand même. On sait que les clubs français face à des clubs norvégiens, des clubs des championnats qu'ont 10 mineurs peuvent se faire surprendre, donc attention. Surtout que Rennes reste sur 2 matchs nuls depuis le début de la saison et ne convainc pas totalement sur ce début de saison.
Oui, on va en parler bien sûr, effectivement, mais c'est vrai que les Rennais ont sans doute le souvenir de cette... Alors on avait parlé d'épopée peut-être de façon exagérée, mais quand ils sont arrivés jusqu'en 8e de finale de Ligue Europa, il y avait eu une folie dans le stade, c'était vraiment plaisant à voir. Hein.
Exceptionnel, avec la qualification au Betis, voilà, et ce 8e de finale face à Arsenal, qui reste la plus belle ambiance que le Rosen Park n'a jamais connue, comme tous ceux qui étaient au match le disent. Et oui, on a un peu raillé ce terme épopée rennaise. Faut remettre dans son contexte. Rennes n'avait jamais, ne s'est jamais sorti des poules de Coupe d'Europe, a ensuite passé un 16e de finale. Oui, alors une épopée, c'est peut-être jusqu'au quart, jusqu'au demi, jusqu'en finale. Mais pour un club comme Rennes qui grandissait étape par étape, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel et qui a réveillé une ville et vraiment montré qu'il y avait une vraie passion foot dans cette ville.
Ouais. Richard, quand on est un club français, quand on voit les résultats des clubs français en Coupe d'Europe, PSG mis à part, on peut pas se pincer le nez, même si c'est une nouvelle compétition, alors qu'elle est peut-être moins cotée que les autres, parce que évidemment, ce sont des clubs qui sont, à part Tottenham et la Roma quand même, il y a quelques bons clubs, mais sinon, il va falloir passer par des affiches a priori moins alléchantes pour cette Conference League. Bon, quand on est un club français, c'est justement une nouvelle compétition qu'on peut aller peut-être chercher, quoi.
Ouais, c'est toujours pareil. Hein. C'est cette compétition qui est la deuxième Coupe d'Europe. Ça va aller vite. Hein. C'est-à-dire que les résultats en poule vont faire monter les ambitions dans cette compétition ou pas. C'est-à-dire les premiers matchs. On va voir ce qui va se passer contre Rosenborg. Mais c'est surtout ça. L'appétit vient en mangeant dans cette compétition. Et malheureusement, c'est dans ces compétitions qu'on marque des points à l'UEFA pour ensuite avoir plus de qualifiés en Ligue des Champions, etc. Donc, c'est les résultats des clubs français dans toutes les Coupes d'Europe qui font que on est un peu moins bien placé français que les Anglais, que les Espagnols, enfin que les Anglais surtout. Donc on a moins de clubs. Mais c'est vrai que c'est une bonne occasion pour Rennes, quand on gagne la conférence, c'est donc la conférence.
Conférence Ligue, là. Voilà, c'est la conférence Ligue, c'est la troisième Coupe d'Europe, parce qu'il y a la Ligue des Champions, la Ligue Europa, et maintenant la conférence Ligue.
La conférence Ligue, voilà. Ça me fait penser un petit peu à la conférence européenne en rugby.
Ouais.
Et quand on la gagne, ça a commencé, maintenant ça s'appelle la Challenge Cup, mais quand on la gagne, on est quand même champion d'Europe. Donc quand j'étais jeune, même je suis pas trop vieux, il y avait la Ligue des Champions, il y avait la Coupe des vainqueurs de coupe, il y avait la Coupe de l'UEFA, il y avait trois coupes et maintenant ils en ont remis une troisième. Donc voilà, on est quand même champion d'Europe si on la gagne. Donc Rennes qui est un club que l'on croit arriver tout le temps, qu'on est moyen, et puis finalement, ça arrive pas forcément tout le temps. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression, moi, en tant qu'amateur de foot, toujours l'impression que c'est un éternel recommencement. Alors, ils avaient Julien Stéphan, ça marchait pas trop mal, ils ont été en Ligue des Champions. Ensuite, maintenant, c'est Bruno Genesio qui est arrivé. Ils ont des moyens, mais pas trop, un petit peu. C'est le deuxième club qui a le plus dépensé sur le mercato.
Pas mal en ce moment.
Ouais, c'est
ça. Donc, il faudrait en profiter et il faudrait s'envoyer, quoi. Autant la famille.
C'est vrai
Pinot
que quand on voit
que le Stade Rennais,
les dépenses, Xavier, 49 millions d'euros déboursés, puisqu'il y a une recrue là annoncée hier par Rennes.
Oui, Baptiste Santa Maria, l'ancien Angevin, après une année en Allemagne, qui revient en France. Ouais, on parle de 14 millions d'euros, donc c'est encore un investissement. Quatrième grosse recrue pour le Stade Rennais. Trois en termes financiers. Il y a eu Loïc Badet pour 20 millions avec les bonus. Souleymana, le jeune Ghanéen. Santa Maria et Melling. C'est pas terminé. Il y aura encore un milieu offensif au moins qui doit venir avant que se règle ou non le cas Camavinga. Donc, Rennes a beaucoup investi. On a posé la question de savoir si ça amenait une pression supplémentaire à Bruno Genesio. Il disait que, évidemment, de toute façon, la pression, elle était toujours là et que lui, il était venu pour ça, pour avoir un club ambitieux. Et il a remercié encore et toujours, et il faut évidemment remercier quand on est Rennes encore et toujours l'actionnaire François Pinault, malgré la crise Covid, malgré tout ça, est capable toujours de réinvestir dans le club. Donc, ouais.
c'est sûr que Rennes,
l'un des rares clubs à avoir les moyens cette saison.
C'est ça, ils ont les moyens. Maintenant, il faut construire comme il faut et essayer de garder les meilleurs joueurs. On parlait d'Eduardo Camavinga. Bon, il y en a d'autres. Et puis, il faut avoir des résultats. Bon, l'année dernière, ils ont fini sixième, me semble-t-il.
Oui, sixième.
Voilà, mais cette année, pourquoi pas cinq ou
quatre. Il faut encore grandir. Oui, parce qu'il y a des clubs en difficulté. Il y a encore effectivement des clubs en difficulté financière qui ont bien du mal, et on en parlait avec Lyon à l'instant, à recruter sans vendre. Pour le coup, Rennes, ils arrivent quand même à faire un mercato très très intéressant qui se voit pas pour l'instant sur le terrain, mais qui va peut-être se voir dans les jours à venir. On va accueillir Eric qui a fait le 32-16, supporter rennais. Salut Eric.
Salut à toute l'équipe, vous allez bien?
Ça va très bien et toi?
Ça va très bien.
Ça va. Alors, donc, moi j'écoute un petit peu, excuse-moi de te couper la parole.
Non, vas-y,
j'écoute
vas-y.
Un petit peu tout ce qui se dit. Alors certes, Rennes recrute, mais aujourd'hui Rennes recrute pourquoi? Pas pour renforcer un effectif, c'est pour compléter tout ce qui part. Donc c'est un petit peu notre problème, c'est qu'il faudrait qu'on puisse recruter tout en gardant des éléments forts. Et c'est un peu notre problème, on a du mal à chaque fois à solidifier un groupe qui est déjà costaud. Donc à chaque fois, on redémarre une aventure et je pense que c'est ce qui fait qu'on
n'arrive pas à franchir
un palier.
Oui, mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu aurais voulu par exemple garder Nzonzi au milieu de terrain?
Ouais, parce que bon, faut pas oublier, c'est après, peu importe, hein, on aime ou on n'aime pas. C'est quand même une personne qui a l'expérience européenne. Donc, même si c'est un joueur qui fait pas 90 minutes, il peut en faire 60. Et tu le complètes avec un joueur que tu recrutes.
Comme ça, t'as marre.
Et de repartir avec un joueur que t'as recruté. Parce que notre effectif sur le banc, voilà, n'est pas riche non plus. Faut pas se mentir.
Alors, il n'est pas riche, mais il est plein de jeunes, Eric. T'as un super centre de formation qui sort des jeunes.
Alors ça, c'est oui, j'entends, RMC, on en parle souvent. Alors, on a un centre et tout, j'entends bien. Mais aujourd'hui, on a un centre, mais Rennes a franchi un palier. Rennes ne joue plus la 10e, 8e place. Ils veulent jouer la 5e, 6e. Donc, tu peux regarder tous les clubs européens. Il n'y a aucun club qui gagne la Ligue des Champions avec son centre de formation.
Ah oui, parce que toi, tu vises la Ligue des Champions.
Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Ligue des Champions, conférence.
Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire.
À part l'Ajax qui sort du lot, tu peux m'en citer d'autres, je ne pense pas.
Alors c'est vrai, Xavier, que pour le coup, c'est vrai, il a peut-être raison, Eric. Il y a une équipe type quand même qui est costaud sur le papier, renforcée par Baptiste Santamaria, on l'a dit. Mais il y a aussi ces jeunes-là. Mais je crois que c'est la politique du club hein, de vouloir pousser ces jeunes dans l'équipe première.
Oui, exactement. C'est comme ça qu'ils ont décidé de bâtir leur groupe cette année, encore plus que les années précédentes. C'est-à-dire d'avoir un groupe assez resserré de 25 joueurs avec les gardiens, deux tiers de joueurs expérimentés et un tiers de jeunes. Donc ça veut dire quand même 7-8 jeunes. Mais quand on parle de jeunes à Rennes, on parle de très jeunes. Il y a le jeune Matistel qui est entré à Brest, que le supporter rennais a dû voir entrer à Brest en fin de match, qui vient de signer pro. Ouais. Il a tout juste 16 ans, 16 ans et 3 mois. Il a battu le record de précocité de contrat pro d'Eduardo Camavinga. Quand on regarde le banc rennais, effectivement, c'est très très jeune. C'est du 16 ans, du 17 ans, du 18 ans, du 21 ans. Alors peut-être qu'en championnat, ils auront du mal à gagner uniquement avec ces jeunes-là, mais le but, c'est de leur faire gagner de l'expérience et faire grandir le club avec le centre de formation encadré par des cadres. Peut-être que les cadres ne suffiront pas.
Oui. Excuse-moi de te couper, mais est-ce que la politique du club, elle est pas un petit peu comme celle qu'on avait vue à Monaco, de faire éclore les jeunes, de les vendre, ou à Lille, de faire éclore les jeunes et finalement de vendre pour faire des plus-values? C'est une question.
Oui, de toute façon, dans l'idée, c'est ça, puisque les jeunes, on sait bien que c'est très difficile de les garder, mais les plus-values pour les faire, Richard, quand on a un jeune, il faut que le jeune parte avec des transferts. Et quand on voit ce qui se passe pour Eduardo Camavinga, oui, s'il ne re-signe pas, il partira libre. Donc le club finalement ne fera pas de plus-value. Donc ça aussi, ce sera quelque chose à gérer pour le club, de réussir à éventuellement vendre mieux ces jeunes. Mais pour l'instant, il faut déjà les faire éclore. Ils sont vraiment très très jeunes. Donc il va falloir être vraiment patient avec eux.
Ils en ont parlé d'ailleurs en conférence de presse de Camavinga, parce que la semaine dernière, oui, Genesio, il avait quand même mis un petit coup de pression à Camavinga.
Oui, il lui avait dit qu'il fallait qu'il règle son transfert, en tout cas qu'il règle son avenir, parce qu'il n'avait pas la tête au foot. Donc on lui a posé la question. Hein, Camavinga était sur le banc à Brest, lui qui avait été titulaire les deux premiers matchs de championnat. Voilà, il a dit je fais le mieux pour mon équipe. C'est pas pour ça qu'Eduardo Camavinga est écarté, mais il y a une échéance au 31 août et on a hâte pour tout le monde qu'elle se termine et qu'on sache enfin ce que va faire Camavinga. Va-t-il prolonger? C'est pas la tendance. Va-t-il être transféré? Pour l'instant, les offres ne sont pas forcément arrivées. Donc c'est compliqué pour Camavinga, qui est un peu victime de la situation. Hein. Il y a évidemment victime de l'entourage. On n'ira pas jusque là. Il est représenté notamment par sa famille et par une grande agence. Mais lui, ça doit le bouffer. Et Genesio le sent, et donc il préfère le mettre sur le banc, parce que Camavinga, on le voit, n'est pas le joueur qui était plein de promesses qu'on pouvait voir à ses débuts. Il fait des matchs assez quelconques depuis maintenant plusieurs mois.
Oui, c'est vrai que ça peut perturber ça, le début de saison rennais. Merci beaucoup Eric, en tout cas, d'être passé.
Bah,
je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose.
Puis continuez votre émission, parce qu'honnêtement, même si on n'est que des petits amateurs quand on passe à l'antenne, de pouvoir un petit peu représenter le foot comme ça, ça fait plaisir, et il n'y a que votre chaîne qui le permet.
Mais on est la radio des auditeurs, RMC, tu le sais Eric, hein, donc tu reviens quand tu veux pour parler
comme ça, vous êtes des bons.
Du Stade Rennais, que l'on suivra sur RMC bien sûr demain 19h contre Rosenborg, avec Xavier Grimaud au commentaire. Accompagné de Jean-Noël Séguier, hein, c'est ça. Hein, Xavier?
Ah non, je serai tout seul comme
ça. Ah, tu seras tout seul. D'accord. Ouais. Enfin, je vais rajouter un match à Jeannot dans sa semaine. Déjà,
il fera le match retour, Jeannot. Il fera le match retour à
19h demain, donc Rennes-Rosenborg sur RMC. Et puis on exclut.
Devant 15 000 spectateurs environ. Ouais, on attend 15 000 spectateurs. Le stade sera pas plein. Voilà, bon, il y a le derby Rennes-Nantes qui sera plein, lui, le week-end suivant. Bon, il y a beaucoup de matchs au mois d'août. Voilà, 15 000. On a demandé à Benjamin Bourigeaud si c'était pas un peu tristoun pour un match de Coupe d'Europe. Lui, il a dit les 15 000, je les prends. Il y avait zéro il y a encore quelques mois, donc ça fera du bruit.
Ça sera
évidemment déjà ça.
Évidemment. Et on suivra ça, bien sûr, sur RMC. Merci beaucoup, Xavier. À bientôt et donc à demain sur RMC. Dans un instant, Julien Laurence nous rejoint pour parler de Paul Pogba. Est-ce qu'il peut quitter Manchester United cet été? Ben oui, parce qu'il est en fin de contrat l'année prochaine. Donc si Manchester veut de l'argent, c'est maintenant qu'il faut le vendre. Et du coup, est-ce que le PSG a intérêt à foncer dès maintenant? Vous nous dites ce que vous en pensez au 32-16. On vous attend avec Richard Dourte. À tout de suite.
RMC Sport Show, François Pinet.
Il est 16h47 sur RMC, le RMC Sport Show avec Richard Dourte, jusqu'à 18h. Dans quelques minutes, à 17h, un Tour de France des clubs du top 14. Exceptionnel ce soir, puisque vous avez deux clubs pour le prix d'un. On vous présente la saison de l'Union Bordeaux-Bègles, demi-finaliste l'an dernier, avec Jefferson Poirot, le capitaine. Et le Stade français aussi, on en parlera avec Thomas Lombard, le directeur général du club. C'était la surprise de la saison dernière. Bravo à Havana qui a fait le 32-16 et qui a remporté ses places pour les 24 heures du Mans, et où on vous offre tout au long de cette émission des places pour l'événement du week-end, samedi et dimanche, sur la piste du Mans, les 24 heures du Mans, 32-16 pour gagner vos places. Mais d'abord, on va accueillir Julien Laurence. Salut Julien.
Salut François, salut à tous.
Toi, tu peux pas aller au Mans, hein, t'es en Angleterre.
C'est un peu compliqué.
Ouais, c'est un peu difficile. Mais on voulait parler avec toi de Paul Pogba, parce qu'on entend tout et peut-être parfois n'importe quoi. Alors tu vas nous dire exactement ce qui se passe au sujet du milieu français qui est en fin de contrat dans un an, qui a fait un match formidable. On en avait parlé un petit peu avec toi lors de la première journée de Premier League avec 4 passes décisives. Est-ce que d'abord il peut quitter Manchester United cette saison? Est-ce que c'est envisageable?
Alors, je pense pas que ce soit envisageable maintenant. Le seul club qui aurait pu peut-être aller chercher Paul Pogba cet été, c'était le PSG, bien sûr, avant l'opération Messi. Même si le PSG garde peut-être un œil sur Pogba, je pense que c'est plus pour l'été prochain, s'il devenait libre de tout contrat. Pour cet été, je pense que c'est plus possible parce que ça coûterait quand même entre 70 et 80 millions d'euros pour aller le chercher, même s'il ne reste qu'un an de contrat. Donc cet été, on peut assurer aux auditeurs qu'il devrait rester à Manchester United et donc faire cette saison.
D'accord.
Potentiellement sa dernière de contrat à Manchester United. En revanche, l'été prochain, c'est différent, surtout si, comme le club le souhaite, il pourrait aussi prolonger son contrat à Old Trafford, parce que c'est vrai que du côté d'United, un, on voudrait pas qu'il parte gratuitement, déjà, et puis surtout, deux, il a rappelé contre Leeds, comme tu le disais François samedi, à quel point il pouvait être très important dans cette équipe et très important pour une saison qui pourrait être une très belle saison pour United, avec cette équipe qui s'est renforcée, bien sûr, et si en plus Pogba joue à ce niveau-là régulièrement, c'est vrai qu'il pourrait être très proche de beaucoup de beaux trophées.
Donc il resterait avec le sourire?
Il est très heureux à Manchester United. Ouais. Il y a aucun problème là-dessus. Ouais, il est très heureux. Il se sent bien. Toute la famille et se sent bien aussi dans le nord de l'Angleterre. Il est content parce que son grand pote Raphaël Varane l'a rejoint aussi. Il est très content parce que cette première victoire a montré que cette équipe de United, elle était aussi capable de faire des très belles performances. Et encore une fois, sans Sancho, sans Varane, donc c'est vrai que sans Rashford non plus, c'était très très prometteur. Donc non, il est heureux. Après, lui était ouvert à tout cet été, et même à prolonger son contrat avec United. À voir après les discussions comment elles vont avancer avec Mino Raiola, ce que Manchester United est prêt à proposer à Paul Pogba, qui a eu 28 ans au mois de mars, donc est quand même plus près de la fin que du début de sa carrière, logiquement. Donc voilà, c'est intéressant. Mais lui, très heureux avec Solskjaer, avec Bruno Fernandez, avec Varane, avec tous les autres à Manchester United pour l'instant.
Ouais, alors c'est vrai qu'il est dans la même situation que Kylian Mbappé, hein, puisqu'il est en fin de contrat dans un an, Richard. Vas-y, Richard.
Moi, j'ai une double question. Est-ce que le fait que Raphaël Varane arrive à Manchester United, ça, et la proximité avec Paul Pogba, ça pourrait l'inciter à rester ou à prolonger? Mais si jamais le PSG vend Kylian Mbappé et qu'ils ont la surface financière pour racheter, est-ce qu'il partirait tout de même?
C'est deux bonnes questions, Richard. Alors la première, oui, je pense que c'est un facteur important dans même je pense pour Paul et sa réflexion personnelle sur son avenir à Manchester United. C'est vrai qu'ils se connaissent depuis qu'ils ont 16 ans tous les deux, qu'ils sont très proches, que ça fait très plaisir à Paul que Varane soit là, que leurs deux familles s'entendent aussi très bien.
Ça fait une grosse épine dorsale aussi défensive et offensive, quoi.
C'est vrai, tu as raison. Hein, si tu regardes, bien sûr, si tu fais Varane, Pogba, Bruno Fernandez, en schématisant un tout petit peu, mais en gros c'est ça, tu vois. Et puis après un Cavani pour l'instant, un jeune Mason Greenwood qui est très prometteur aussi. C'est vrai que ça peut compter. Et je pense que c'était pas non plus complètement innocent de la part des dirigeants de Manchester United d'être allé chercher Varane aussi. C'est une très bonne opération pour eux financière parce qu'il lui restait qu'un an de contrat et par le genre de joueur qu'il est, l'expérience, le talent et tout ça, mais aussi par sa proximité avec Varane. Ensuite, même si je crois pas du tout que le PSG laissera partir Kylian Mbappé s'il y a une offre du Real Madrid, c'est vrai que là ça pourrait tout changer et que si le PSG venait à récupérer entre 100 et 150 millions pour Mbappé, dans ce cas-là, oui, ça remettrait tout sur la table pour Paul Pogba.
Est-ce que c'est susceptible de pouvoir acheter Pogba?
Aujourd'hui, je pense que oui. Je pense que dans l'esprit du Real Madrid, c'est un...
Parce qu'il y en a d'autres qui pourraient être susceptibles de le vouloir sportivement. C'est ça que je veux dire.
Oui. Alors après, là encore, il n'ira pas dans un autre club anglais. Donc c'est assez. Même si on a vu par le passé que Mino Raiola l'a proposé à Manchester City, mais il n'ira pas dans un autre club anglais. Donc après, c'est le PSG ou alors un des deux grands d'Espagne. Il y en a surtout un qui peut se le permettre, c'est le Real Madrid l'année prochaine. Ouais. Moi, je vois très bien le Real aller chercher Mbappé gratuitement, Paul Pogba gratuitement, et faire une très belle affaire comme ça l'été prochain.
Ah oui, d'accord. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on voit beaucoup de grands joueurs justement qui sont en fin de de contrat dans un an et qui sans doute patiente peut-être, parce que évidemment c'est intéressant pour le joueur qui peut partir un peu où il veut, c'est intéressant pour le club qui va le recruter
et puis financièrement,
et puis financièrement il y a aussi but sans doute aussi, la prime à la signature qui peut intéresser et le joueur et l'entourage du joueur, donc évidemment ça force c'est pas ça. Forcément les joueurs à prolonger, c'est ce qu'on voit aussi en Angleterre.
Et puis encore une fois on regarde Chiellini par exemple, qui n'avait pas prolongé au moment de l'Euro et qui a fini par, qui aurait pu partir où il voulait aussi et qui a fini par prolonger à la Juve dans son club pendant l'été, alors qu'il avait été pendant un moment où Messi aurait fait pareil si tout avait été ok avec la Ligue espagnole et avec le Barça. Donc tu peux aussi passer la saison sans prolonger ton contrat, être en fin de contrat au 31 juin, attendre, voir les propositions que t'as, voir aussi la proposition de ton club actuel pour prolonger et puis choisir de prolonger aussi. C'est pas pas obligé de prolonger là dans les semaines qui arrivent ou au mois de janvier ou au mois de février ou
après,
voilà, au mois de mai.
Comment fonctionnent les clubs anglais et Manchester United en particulier, mais on a vu au Paris Saint-Germain que si tu ne prolonges pas avant, tu es aussi parfois mis à l'écart. C'était le cas d'Adrien Rabiot, c'est-à-dire que on te met à l'écart parce que tu as refusé de prolonger ton contrat. Tu vois, donc je sais pas si en Angleterre ça se fait comme ça aussi, mais
il y a eu quelques cas parfois, mais après ça se fait au cas par cas. Je pense pas que ni Paul Pogba ni Kylian Mbappé ne seront mis sur la touche s'ils ne prolongent pas leur contrat.
Ouais. Est-ce que pour toi, Richard, le PSG doit tout faire pour recruter Paul Pogba, que ça soit donc bon cet été a priori ça quand même semble fermé, mais la saison prochaine?
Bon, franchement, je pense que pour l'équilibre de l'équipe du PSG, Paul Pogba était plus utile que Messi. Maintenant, Messi est arrivé. Donc, parce que si on met au milieu de terrain Pogba Verratti, ça a de la gueule quand même. C'est pas trop mal. Tout faire, non, je sais pas, mais le recrutement de Pogba était peut-être, après c'est l'opportunité qui a fait que Messi est arrivé aussi, mais voilà, c'était pour le PSG, c'est Pogba, enfin pour tout le monde, quoi. On a vu l'euro qu'il a fait, c'est devenu vraiment un grand patron. Alors il a eu un passage à vide il y a 2 ans, puis là apparemment sur le premier match qu'il a fait en Première Ligue, c'est autre chose, quoi.
Je te confirme, c'était magnifique.
En finale de la Coupe du Monde, il avait été énorme. Ouais. Même but du gauche, il met le même but du droit. On le sent venir, quoi. Il est à l'entrée de la surface, il enroule. C'est plein de lucarnes, quoi. Ouais. C'est, il y en a pas beaucoup qui peuvent le faire. Donc, est-ce que le PSG doit tout faire pour le recruter? Moi, je l'aurais fait maintenant.
Ouais. Alors, Jonathan est avec nous, supporter de Manchester United à 16h55. Salut, Jonathan.
Salut à tous.
Salut Jonathan.
T'as entendu Julien qui nous parle de l'avenir de Paul Pogba. A priori, tu dois être rassuré, il va rester cette saison.
Rassuré, c'est un grand mot. Alors bien sûr qu'après une telle performance, comme il a pu nous montrer contre Leeds, on a très envie qu'il reste. Et après, voilà, moi, mon avis, c'est que bon, j'ai pas de boule de cristal, je veux pas dire s'il va rester, s'il va partir. Je sais que le club va rencontrer Raiola, va essayer de pousser pour vraiment re-signer Paul Pogba. Je pense que ça peut également se jouer sur l'importance qu'on va lui donner. Il faut vraiment le mettre sur un même piédestal, comme on fait un peu avec Bruno Fernandes. Dire voilà, nous on te reconnaît ta juste valeur. C'est pas qu'une question de d'argent. On te donnera le salaire que tu demanderas. Mais c'est surtout voilà, dire que en faire la star, quoi, en faire le number one dans le club, parce que c'est aussi ce qu'il est. Hein. Paul Pogba, c'est un joueur de classe mondiale. On va pas refaire le tour. On sait tous ce qu'il en est. On connaît ses qualités. Mais je pense qu'il est vraiment essentiel pour pouvoir le re-signer, de dire voilà, c'est toi la star et on reconstruit ce Manchester United autour de toi.
Le coacher un peu comme Deschamps le fait en équipe de France, en quelque sorte, Julien.
C'est ça, ouais.
Ouais, alors après, en termes de marketing déjà et de sponsor, il est partout. Hein. Il est partout dans le programme des matchs qu'on vous avait à Old Trafford. Il est dans toutes les pages avec tous les sponsors en Asie, en Amérique, en Europe, enfin partout. C'est la tête de gondole de ce club. Et je pense que si tu le laisses partir aussi, tu restes le plus grand club du monde ou un des plus grands clubs du monde. Donc là, les revenus seront toujours là, l'argent continuera à rentrer. Mais avec Pogba, tu perds aussi ce visage qui a été le visage de Manchester United, en tout cas pour les sponsors. Je parle pas au niveau sur le terrain, parce que sur le terrain, bien sûr, il a parfois été un petit peu inconstant. Et c'est ça qui doit aussi, on l'a vu contre Leeds, il est formidable. Moi, j'aimerais le voir formidable comme ça tous les week-ends. Alors après, c'est impossible tous les week-ends, même pour les très 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 grands joueurs. Mais au moins qui montre un petit peu plus le Pogba de samedi qu'un Pogba qu'on a parfois vu un petit peu plus décevant, on va dire entre guillemets. Mais en tout cas, en termes de marketing pour United. En termes de marketing pour United, il est très très important. Ouais. C'est lui vraiment le numéro un. Mais après, je suis d'accord avec Jonathan. C'est vrai qu'il est un petit peu baladé d'un poste à l'autre, un petit peu sur le côté, un petit peu dans l'axe, un petit peu plus bas, un petit peu plus haut. Et c'est vrai que peut-être il a besoin de ressentir aussi que, c'est vraiment aussi lui le patron, même si dans le vestiaire il est considéré comme tel. C'est un des leaders de ce vestiaire.
Ouais.
Exactement. Et si je peux ajouter, vas-y, je ne sais pas si voilà, moi en tant que supporter, j'ai remarqué ça depuis l'arrivée du coup du nouveau sponsor maillot de United qui est TeamViewer. Il y a eu un énorme changement sur la com, la manière dont communique l'équipe, que ce soit sur les réseaux sociaux en vrai. Bon, il y a eu aussi également on peut dire que c'est un coup de com, un peu l'arrivée de Varane inattendu à Old Trafford. Il y a vraiment une façon de communiquer qui a changé. Puis récemment, alors qu'on aurait pu s'attendre au contraire, énormément de posts concernant Paul Pogba, le mettant en valeur, disant, enfin voilà, le considérant comme un joueur. On n'a pas l'impression qu'il est sur la sortie, quoi.
Oui. C'est aussi pour essayer de le conserver, forcément, de l'amadouer.
Bien sûr.
Bien sûr. Bon, merci beaucoup, Jonathan, en tout cas, d'être passé sur RMC. Tu vas bien quand tu veux. À très bientôt. Merci à toi, Julien. À bientôt.
Merci, les gars.
On reparlera,
merci,
bien sûr, de Paul Pogba sur RMC. Et on parlera aussi de Cristiano Ronaldo, tiens, qui s'est exprimé hier sur les réseaux sociaux, qui a clarifié sa situation. Je ne sais pas si vous avez lu ça. Parce qu'on a parlé d'un possible départ de la Juve et d'un retour du Real. Il a dit, il faut arrêter de me manquer de respect en tant qu'homme et en tant que joueur et de parler de toutes ces rumeurs. En quelque sorte, je reste concentré sur ma carrière et dans mon travail, engagé et préparé à tous les défis auxquels je dois faire face. Bon, il ne dit pas qu'il reste. C'est sûr, à la Juventus Turin. Il ne le précise pas dans cette publication Instagram. Merci beaucoup à toi, Julien. Dans quelques minutes, notre Tour de France des clubs du top 14, le Stade Français et l'Union Bordeaux-Bègles au programme. Supporters des deux clubs, on vous attend au 32-16 si vous avez des questions à poser. N'hésitez pas, Richard Dourte vous attend également. À tout de suite.